Bonjour et bienvenue. L'émission d'aujourd'hui est assez particulière parce qu'elle parle de Bourvil. Bourvil du rire aux larmes, comme on aime encore le souligner actuellement, un siècle après sa naissance. Oui, parce qu'André Rimbourg est né à Bourvil le 27 juillet 1917. En fouillant dans les archives du rire, j'ai découvert peu à peu que beaucoup de monde me parlait de cet artiste à part dans le monde du music hall. Annie Cordy qui a travaillé avec lui et qui gardait un souvenir lumineux. Les frères Taloche qui ont réellement été marqués par le charisme étonnant de ce comédien, chanteur et raconteur d'histoire. Nous entendrons aussi Robert Rollis qui jouait avec Bourvil dans La Bonne Planque et que j'ai eu la chance de rencontrer Robert Rollis en 2007. Mais on va commencer l'émission avec Mon bon vieux phono, une chanson de 1957 où Bourvil évoque ses maîtres du music hall du début du siècle passé, des maîtres qui l'ont probablement inspiré.
Mon bon vieux grand-père qui était comédien quand j'étais gamin chantait ce refrain tout en remontant avec précaution la petite manivelle d'un vieux phono à pavillon. Sur mon phono, mon bon vieux phono, petit tu vois, quand j'ai le cœur gros je mets un rouleau et je revois Paulus, Maillol, les rois du music-hall, Dranam, Narquois, qui chantait les petits pois sur mon phono, mon bon vieux phono, sans me déranger. Je peux écouter le premier numéro de Chevalier. Je vois la Scala, l'Eldorado, et moi enlevé de rideau sur mon phono, mon bon vieux phono, qui chante faux.
Roger Pierre, humoriste, homme de plume aussi, puisqu'il a écrit de nombreux sketchs, des chansons pour beaucoup d'artistes, et même pour Bourvil, la fameuse causerie anti-alcoolique, c'est un texte de Roger Pierre. Le 4 avril 1995 à Genève, il me parlait de sa rencontre avec Bourvil.
J'ai joué au Canada avec lui. J'ai écrit un sketch pour lui qui s'appelle L'eau ferrugineuse. Je lui ai écrit une chanson.
On ne le sait pas assez que c'est vous qui avez écrit la causerie anti-alcoolique.
Oui, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai ce soir de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse.
Comment ça s'est passé? Vous l'avez spécialement écrit pour Bourvil? C'est en vous amusant avec lui qu'est né ce sketch? Comment ça s'est passé exactement?
Pas du tout. Bourvil est venu me voir au cabaret de l'Amiral où j'avais écrit une revue. Et dans cette revue, Jean Richard avait une conférence anti-alcoolique qui s'appelait « L'alcool tue, c'est pas douteux ». Vous voyez ? Et il m'a dit « Roger, fais-moi une conférence anti-alcoolique ». Et j'ai dit « Mais Richard en a une », il me fait « Débrouille-toi, Jean est mon ami, on sera deux à avoir une conférence anti-alcoolique ». Et Richard, ça l'a fait rire. Et tous les deux, en même temps, ont joué une conférence anti-alcoolique que j'avais écrite, en les spécialisant, bien sûr. Richard faisait... Il était bien militaire. Je suis envoyé par le capitaine-major Baudouin pour vous plaire d'un fléau dans lequel... Voilà. Et Bourvil, c'était le petit paysan qui a bu un peu trop.
Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool? Dans l'eau ferrée chemineuse, c'est parce que le fer a repassé. Non, pas le fer. L'eau, disait, l'eau, c'est parce que l'eau a passé et repassé sur le fer et le fer a dissous. Il a dissous le fer. Et le fer à dissous, c'est pas cher, hein? Alors, pourquoi boire cet alcool qui, plus onéreux que l'aura fait chinoise, ruine la santé et le portefeuille? L'alcool, non, mais l'eau sera chanoise, oui.
Bourville, quand il a commencé à la fin de l'occupation. Il avait une bicyclette et il passait quelques fois dans un cabaret qui s'appelait Chez ma cousine. Et il arrivait et le patron disait « Ah voilà Dédé, ne bouge pas ». Il comptait les clients et il disait « Tu peux rentrer, il y a du monde, joue. » Ou alors « Reviens demain ».
Le sport que je préfère, moi, c'est le vélo. Ah oui, parce que je suis souple, forcément, ça me va bien, ça. J'étais formidable, je peux dire que j'étais le roi, ah oui. Lui, mon adversaire, lui, il bluffait un peu, il se faisait appeler le Léder. Bon, c'est bien, le Léder. qui s'appelle n'importe comment, mais c'est pas ça qui me dérangeait, hein.
Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois, la bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur, la bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur ? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur ? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour ? Tour de France, non, mais j'ai fait des tours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit ? Des tours de vélo, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur ? Vous parlez d'un raisonnement ? Coureur.
Les archives du rire. En 2007, le Beaulieu à Payerne ouvre ses portes à une exposition unique consacrée à Bourville. Des affiches, des extraits de films, photos, textes et disques rappellent la carrière exceptionnelle de l'artiste. L'exposition est possible grâce au travail de récolte de Pascal Delmotte, grand collectionneur qui possède environ 9000 pièces et objets ayant un rapport avec Bourville. Pascal Delmotte est également biographe d'André Rimbourg. Nous l'avions rencontré pour parler de cette exposition, parrainée en 2007 par les frères Taloche.
Pascal Delmotte, on est ici au cœur de l'exposition Bourville. Alors c'est extraordinaire, il y a des photos et des affiches. On a le Corneau là, on a l'affiche du Corneau devant nous. Alors évidemment, c'est l'une des premières à laquelle on pense, mais il y a d'autres films, les premiers films, des contrats phonographiques. Il y a des choses extraordinaires. Et c'est vous qui avez réussi à amasser cette collection fabuleuse.
Eh bien oui, au bout de 20 ans et au bout d'une série d'heureux hasards, j'ai eu le bonheur de pouvoir réunir cette collection. Enfin, ce qui est présenté ici n'est qu'une partie, puisque maintenant je pense qu'on doit être à peu près à 9000 pièces, quelque chose comme ça. Et ça grâce à la confiance que m'a accordé Dominique Rimbourg, le fils aîné de Bourville, en me confiant les archives de son père, me confiant cette gestion par l'organisation d'expositions et pouvoir faire justement profiter le public de Bourville, de pouvoir faire découvrir un peu Bourville, montrer que justement ce n'est pas que le Corneau et la Grande Vadrouille, c'est autre chose, c'est 53 films, c'est 300 chansons, c'est 8 opérettes et des de théâtre. Et puis voilà, quoi, donner du bonheur aux gens et pouvoir leur faire redécouvrir ou redécouvrir.
Beaucoup moins bien, forcément.
Ben, je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus.
Oh là là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Non. Qu'est-ce que je vais devenir, moi ?
Il y a notamment, au tout début de l'exposition, un texte qui est intitulé « Mon hameau ». C'est un texte que Bourville devait avoir 10 ans, c'est ça, vu qu'il y a la photo de Bourville à 10 ans, juste en dessus. Lorsqu'on a ça entre les mains, ce texte entre les mains la première fois, et qu'on se dit, ben voilà, ça c'est une pièce extraordinaire qui arrive encore dans la collection, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Pascal Delmotte ?
C'est un grand frisson, c'est les yeux grands ouverts, on est émerveillé. Je vous dis, c'est d'immenses frissons. Dernièrement, j'ai eu le bonheur encore une fois d'être accueilli chez Dominique Rimbourg, où il m'a offert le bureau de son père. pour pouvoir présenter également en exposition. Et il me dit, bah, voilà, j'ai retrouvé quelques caisses de photos, il n'y avait plus de 1000 pièces. Et bien, écoutez, là-dedans, on a retrouvé des choses extraordinaires. Et je... Franchement, on est rentré le soir, il me dit, tu regardes dans ta chambre, tu vas voir, on a retrouvé des photos du temps du service militaire de Bourville, donc qui date de, et qui sont en plus qui sont datés au dos, où il explique où il se trouve et dans quelles circonstances. Donc il y a des photos de 1936, 37, 38. C'est des trucs qui n'ont jamais été publiés, qui n'ont jamais été vus. C'est peut-être des trucs qui n'ont plus été sortis depuis 40, voire 50 ans. Et revoir ça, c'est vrai que ça produit une émotion terrible.
Ah ben, je ne suis pas si con que j'en ai l'air, là.
Le Cornio, le grand film de Gérard Houry, sorti en 1965, qui rassemble Bourville et Louis de Funès. Dans le double DVD, qui contient en plus du film de nombreux documents, on y voit Bourville, qui parle de ce film, Le Cornio.
C'est un sujet de Gérard Houry. C'est une histoire qui se passe entre Louis de Funès et moi. On a tourné une bonne partie, la moitié du film, en Italie. À Naples, à Rome, au lac de Bolsena, à Pise, à Portofino. On a fait un beau voyage et j'espère que les gens seront heureux de faire ce voyage avec nous.
Allez, vite, moteur. Moteur, annonce. Annonce, André. Je vous ferai signe pour démarrer le jeu. Roulez assez vite.
C'est un film en couleur, cinémascope. Parce que généralement, on fait des films comiques avec très peu de moyens. Cette fois-ci, c'est un film riche. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je tourne dans un film avec autant de moyens.
Les archives du rire.
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
Bonjour les frères Taloche.
Mais bonjour, bonjour.
En chœur, en plus, ouais, vous êtes les parrains de cette magnifique exposition consacrée à André Rimbourg, à Bourville. Se dire que pour vous, la boucle est bouclée, parce que finalement, c'est Bourville qui vous a donné le déclic.
Oui, c'est vrai que tous les deux, on a été baignés par les films, les pièces et les chansons de Bourville. Et je pense que tous les deux, on peut dire qu'il a été un peu l'astigateur. On a eu envie de faire ce métier grâce à beaucoup de personnes, mais aussi grâce à Bourville. Et on connaissait plein de films de lui par cœur. Et on continue à essayer de faire rire les gens, ce qui était la passion, le métier de Bourville.
Elle s'appelait Oupeta, Peta, Si, Peta, La, Peta, O, Peta, Ba, Oupeta, La Bella, Oupeta, La Bella, Oupeta, La Mia Bella. Sur son âne, elle allait, Peta, Si, Peta, La, Peta, O, Peta, Ba, Oupeta, La Bella, Oupeta, La Bella, Oupeta, La Mia Bella.
Bourville, entre rire et tendresse, quel est votre sentiment lorsque vous voyez ou revoyez cette exposition avec ses photos et avec les objets qui ont appartenu à ce grand artiste?
Mais bien sûr, on est très ému parce que on se replonge dans ce qu'il a dû vivre à ce moment-là, par les photos, par ses photos privées aussi, de collections privées, donc comment il vivait avec sa famille. Et nous, on est vraiment très très ému.
Au début des années 60, Bourville monte sur scène et joue La Bonne Planque de Michel André avec Pierrette Bruno et avec Robert Rollis. Le comédien Robert Rollis jouait le rôle d'Émile dans La Bonne Planque.
Ah toi alors, toi t'as pas changé, hein. Portez plainte. Mais non, on va se planquer tout simplement. Mais fais-moi confiance, hein. T'as été régulière, t'auras ta part dans l'affaire.
Ça. Ah, laisse tomber, hein. Je veux pas de cet argent-là.
Bah pourquoi?
J'en veux pas.
Bon, enfin c'est ridicule.
Non, je n'en veux à aucun prix, là c'est clair.
Mais si Lucienne, prenez. Quand on frappe à ma porte pour une bonne œuvre, je ne refuse jamais d'acheter quelque chose. C'est pour une bonne œuvre, hein?
Mais comment que c'est pour une bonne œuvre?
C'est pour quelle œuvre?
Hein? Bah écoutez, à vrai dire, c'est
au profit des étudiants pères de familles nombreuses. Voilà.
Et lors de l'exposition consacrée à Bourville, à Payerne, il y a 10 ans, j'ai le grand bonheur de rencontrer Robert Rollis.
C'était en 63-64, vous vous rendez compte?
D'accord. Ouais.
On est resté 62 et 63.
Ouais. 1000 représentations de La Bonne Planque.
Pas tout à fait, mais quand même, presque 3 années, vous vous rendez compte, ça représente beaucoup de représentations.
Oui. Ah ben alors, donnez-moi 2 savonnettes, mon vieux.
Deux? Ah ben j'avais pas entendu, excusez-moi.
Dépêchez-vous, j'attends quelqu'un.
Ben, voulez-vous que j'en vienne plus tard, si ça vous arrange.
Mais non, puisque vous êtes là, allez-y, quoi.
Eh ben écoutez, j'aime autant vous prévenir tout de suite, vous savez, c'est pas des savonnettes extraordinaires, hein. C'est vraiment la toute petite savonnette, alors une voix de savon, 3 fois rien, vraiment le minimum. Hein.
Faites-la voir quand même.
Mais vous savez, c'est du genre Pierre Ponce. Plus on appuie, moins ça mousse. C'est vraiment pas terrible.
Ça s'use moins vite.
Oui. Robert Hollis, qu'est-ce qu'il avait Bourvil dans ses yeux?
Ah, la tendresse. Dans ses yeux, c'était... Il avait à la fois le côté rieur, parce qu'il était très rieur. Hein. On pouvait pas supporter son œil. On avait envie de rire, tout le temps. Mais on voyait la tendresse aussi. Parce que dès que ce sourire partait, dans son regard, on sentait vraiment la tendresse. L'amour, vous voyez. C'était un homme extraordinaire.
Alors, le commissaire Benoît.
Benoît.
Ah oui. Benoît, c'est moi. Hein? Non, je ne m'appelle pas Benoît, non. Non, mais je disais, le commissaire Benoît, c'est moi. Mais je sais bien que c'est vous. Hein.
La Bonne Planque, c'est une pièce quand même assez particulière parce que Paris n'en voulait pas à la base.
À la base, oui. Et c'est grâce à la télévision belge qui un jour nous a demandé, sans bouger, sans faire de choses extraordinaires, me dit, bougez votre pièce, vous vous inquiétez pas, nous, on fera notre travail, vous faites le vôtre. Et ils ont mis plusieurs projecteurs dans la salle, de manière à pouvoir prendre les gros plans et les plans d'ensemble. Et ils ont simplement fait une petite annonce au public en leur disant, mesdames, messieurs, vous allez voir une représentation un peu spéciale, un peu plus de lumière, ce qui vous donnera l'occasion de voir vos comédiens en pleine lumière, mieux, encore un peu mieux. Oui. Et ma foi, les gens n'étaient pas du tout mécontents, au contraire.
D'ailleurs, la pièce a été ressortie en DVD.
Exactement.
Et il faut rappeler que c'est la première pièce qui a été filmée pour la télévision.
Exactement.
Aimez-vous ce petit terre-là?
Saviez-vous que Bourvil avait également fait de la radio? Il travaillait en compagnie de Maryse, Madame Gildas, que j'avais eu le bonheur de rencontrer en 1988 dans les studios d'Europe 1. Elle me parlait de ses souvenirs, de ce duo radiophonique qu'elle avait composé avec Bourvil.
Bon, avec Bourvil, j'en ai d'émouvant, de charmant, parce que Bourvil était un homme délicieux, comme on sait, et que pendant l'heure du flash, on faisait émission entre 10h et midi, pendant l'heure du flash à 10h, lui, il mangeait toujours une pomme. Bon, il était de Normandie, ça peut peut-être c'est peut-être pour ça, s'expliquer comme ça. Et il avait toujours pour moi je ne suis pas fanat des pommes, il savait, je ne l'avais jamais dit, mais il devait le savoir, le sentir, je sais pas, et moi, il apportait toujours pour moi une mandarine. C'est rien, et en même temps, c'est un geste que j'ai trouvé tellement délicat. Bon, ça, c'était Bourvil. Et puis, bon, sans compter son humour, sa gentillesse, etc., tout ce qu'on connaît de lui, ce qui était... Bon, rien que de l'approcher, moi, j'étais vraiment emballée de travailler avec ce monsieur.
On était impressionnés par le personnage.
Moi, j'étais impressionnée, mais il était tellement simple, tellement facile, qu'il vous mettait à l'aise tout de suite. Donc, impressionnée, oui, juste avant. Et puis après, c'était formidable. On avait l'impression d'avoir connu depuis toujours.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. On ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment,
Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long.
Les archives du rire. Annie Cordy a débuté, entre autres, avec Bourvil et la chanson « Le petit coup de chance ». Le petit coup de chance, c'est peut-être de l'avoir appelée chez elle en Belgique dans les années 80. Annie Cordy me parlait de ce Bourvil qu'elle a connu et avec qui elle a travaillé. En quelques mots, quelques minutes, elle me dresse le portrait de cet homme qui savait si bien passer du rire aux larmes. Annie Cordy.
Oui, dans ce métier, les années passent, surtout quand on a une carrière bien remplie. Et 1952 était un merveilleux souvenir parce que d'abord, j'ai rencontré Bourvil. Et que travailler avec Bourvil, c'était vraiment un grand plaisir. Quoique ça, c'était un homme très angoissé, comme tous les gens qui sont un peu conscients dans ce métier, comme je le suis moi et comme il l'était lui, nous sommes conscients du danger et en se disant est-ce que ça va marcher ? Parce que les gens inconscients, ils montent sur une scène, pour moi, c'est pas des artistes. Bon, et pour lui non plus, ça n'était pas.
Le petit coup de chance, c'est quelquefois la providence qui vous l'envoie.
Et le petit coup de chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera. Dans l'existence, on n'a parfois plus d'espérance qu'on a de joie. Mais quand on pense, ça s'arrangera. Le petit coup de chance est toujours là. Je suis née sous la balance.
Moi, il m'a fait rire sur la scène. Un jour, j'ai pleuré, je suis restée sur la scène, je pleurais de rire. Oui, oui, c'est vrai, dans un sketch que nous avions, parce que j'avais eu un trou de mémoire. Et alors, il a pris le public à témoin et dit, voyez, elle a un trou. Elle a un trou et là, je ne sais plus ce qu'elle va dire. Enfin, ça a duré des minutes et des minutes. Ça nous a fait ça nous a fait garder ce sketch tel qu'il était parce qu'on en a fait ce qu'on appelle au théâtre une tradition. C'est-à-dire que tous les soirs, on a recommencé la même chose. Il disait, elle a toujours un trou au même endroit. Enfin, vous voyez un petit peu ça.
Oui.
Ça dégénérait, les gens étaient pliés en deux. Et j'avoue que c'est un souvenir merveilleux.
Mais quand on pense, ça s'arrangera. Le petit coup de chance. Le petit coup de chance est toujours là.
À côté de ça, c'était un homme qui adorait raconter des blagues, mais les blagues, on n'en connaissait jamais la chute. Oui. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il rigolait tellement, parce que lui, il la connaissait, cet abruti. Oh. Alors je lui disais, mais Dédé, mais dis-nous la fin, comment tu veux qu'on rit si on ne connaît pas la fin de l'histoire ? Oui, mais c'est... Et repartait avec son rire que tout le monde connaît tellement bien.
C'est l'histoire du jockey. Le jockey qui a fait la petite. Oh le jockey. Parce qu'elle comprenait tout, elle était pas bête. Hein. Alors, le jockey, arrêtez. Arrêtez, c'est trop drôle. Mon copain, il ne voulait pas arrêter. D'ailleurs, il lui a dit, enfin, madame, vous l'avez voulu, hein. Quand on a mis ça en route, c'est comme tout, il faut aller jusqu'au bout, hein. Alors, il lui dit, c'est le jockey qui honte dans la salle de bain. Voilà la petite du... Arrêtez. Arrêtez,
Je bouffe.
Dans le livre Du rire aux larmes, on dit aussi que les blagues n'étaient pas toujours spécialement bien placées, non?
Non, il adorait un petit peu les blagues scato.
Oui.
Ça lui plaisait beaucoup.
Oui.
Bah, c'était peut-être une sorte de défoulement, allez ouais. savoir.
Mais c'était pas un petit peu un paradoxe d'entendre Bourvilliers raconter des histoires comme ça?
Je pense pas, non. Je pense qu'il avait ce besoin. Écoutez, je pense que ça rejoint un petit peu... Dès quand il a commencé à tourner avec des grands metteurs en scène mmh. et qu'il a dit des beaux textes, tout ça, il n'avait qu'une envie, c'était de revenir sur la scène pour oui. pouvoir justement se laisser aller à ses bas instincts, entre guillemets, de se rouler par terre, de se déguiser en garde champêtre,
oui, oui.
de se prendre par le fond du pantalon et de faire rire les gens au premier degré, je veux dire par là. Je pense qu'il en avait un grand besoin. C'était une sorte de défoulement, d'exutoire, vous voyez.
Café.
Tabac.
Qui veut goûter mon mocha? Café.
Tabac. Qui veut un cigare extra?
Café.
Tabac.
Après merveilleux repas,
y a bon café. En fumant fameux tabac.
Moi je fais du café connard. C'est le meilleur café qu'on a.
Moi je vends tous ceux qui se fument. Et même à l'occasion j'allume.
Mais pour bien goûter mon café, il faut enfumer la senteur.
Comme mon tabac pour l'apprécier, faut être de bon humeur.
Café.
Tabac.
Qui veut goûter mon mocha? Café.
Tabac.
Je rejoins avec lui dans une opérette. Waouh waouh. Au théâtre de l'Alhambra, où nous sommes partis en tournée. Et à l'époque, il avait déjà tourné le Cordier, où c'était...
Il
commençait déjà à faire de très très grands films. Mais il n'avait pas changé sur le point, rapport humain, ça n'a rien changé en lui. Oui.
Ouais, on dit qu'au niveau humain, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Hein.
C'était quelqu'un d'exceptionnel, c'était en plus quelqu'un d'exceptionnel, parce qu'il avait ce don de faire rire les gens. Et nous qui étions à côté, et en l'espace de 4 secondes, en vous prenant la main, en vous regardant, vous n'avez plus envie de rire. Mmh. Il avait vraiment une sensibilité à fleur de peau qui passait comme ça, claque d'un coup. Hein. Ça, j'ai rarement vu ça chez quelqu'un. Il avait aussi une chose extraordinaire, Bourvilliers. Les gens ne se rendaient peut-être pas tout à fait compte, mais quand il était rigolo, entre guillemets, hein,
oui.
il avait cette voix de trompette. Matakatakatakatik, le gendarme, c'était
oui.
une trompette.
Oui.
Et souvenez-vous, quand il chantait la balade irlandaise, vous êtes un peu trop jeune, il avait. C'était un violoncelle.
Oui.
Et d'un coup, tout basculait, vous voyez.
Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi, près de la rivière où notre chaumière bat comme un cœur plein de joie.
C'était là ce qu'on appelle dans ce métier un clown triste, Bourvilliers?
Oui, je pense qu'il était... Voyez-vous, nous, je me souviens de tournées que l'on faisait, et nous, on était tous ensemble, les comédiens, les chanteurs, tout ça, et lui était seul à une table. Il mangeait tout seul. Il ne se joignait pas à nous. Mais je pense que c'était un besoin de s'isoler, de récupérer quelque part. Vous savez, moi j'étais plus jeune que lui, puisque bon, on m'a découvert dans la route fleurie.
Oui.
Alors je me disais, moi, à l'époque, je suis quand même curieux, pourquoi il vient pas avec nous. Mais c'est un besoin de solitude, je pense.
L'eau de la rivière fleure la bruyère, et ton sommeil est à moi. Un oranger sur le sol irlandais, on ne jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Toi, mon enfant, tu es.